Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Les députés autorisent à nouveau le recours aux néonicotinoïdes pour protéger la betterave. Une soixantaine de députés de la majorité n'ont pas voté le texte contesté par les défenseurs de l'environnement. La croissance française sans doute à l'arrêt au quatrième trimestre selon les prévisions de l'INSEE. Les nouvelles restrictions contre le rebond épidémique pèsent sur l'économie. La France va restituer au Bénin et au Sénégal des biens culturels saisis lors de la colonisation. Un projet qui divise les historiens. Nous en parlerons avec notre invité Julien Volper, historien de l'art, spécialiste de l'Afrique. L'espoir au Mali, l'otage française Sophie Pétronin pourrait être libérée dans les prochaines heures, et cela après la libération de dizaines de djihadistes par les autorités maliennes. À une très large majorité, l'Assemblée a adopté ce soir le texte qui autorise le retour des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Une réintroduction temporaire pour sauver la filière betterave. A priori, un vote sans appel, 313 voix pour, 158 contre, au grand dam des défenseurs de l'environnement. Mais si l'on regarde ce résultat dans le détail, on s'aperçoit que de nombreux députés LREM n'ont pas voté le texte. Rosalie Lafarge.
32 votes contre, 36 abstentions, près de 70 députés La République En Marche n'apportent pas leur soutien au texte du gouvernement et c'est un record. Une vraie surprise aussi, concède-t-on au sein des instances du groupe. Ils étaient quelques-uns seulement à l'avoir dit avant même le vote solennel. Sandrine Lefeur, par exemple, cette agricultrice députée LREM du Finistère.
C'est une position que tout le monde comprend au sein de la majorité, de par mon métier et puis mes combats. Est-ce qu'on est vraiment obligé de réautoriser pour 3 ans alors qu'on sait que les néonicotinoïdes sont dangereux. Enfin voilà, il y a pas, je crois que personne ici remet ça en cause. Uniquement politiquement, c'est pas un bon signal. On revient en arrière sur une loi qui a été votée démocratiquement. C'est compliqué de faire ça.
Compliqué aussi pour d'autres députés de la majorité présidentielle. 4 contre et 1 abstention chez Agir. 9 contre et 4 abstentions au MoDem.
Il n'y a pas du tout de fronde ni quoi que ce soit. C'est un vote de conscience pour un certain nombre de personnalités.
Le député MoDem Erwan Balanant a voté contre.
Bon, voilà, c'est vrai qu'il y a une filière qui souffre aujourd'hui. Il faut l'entendre, mais je pense qu'on ne peut pas reculer tout le temps pour mieux sauter, surtout si on ne saute jamais l'obstacle. Il faut qu'on sorte des pesticides et en arrêtant à chaque fois de faire des textes où on donne des interdictions sans avoir de transition proposée.
Nous voulons tous mettre fin à l'usage de ces produits, mais la réalité que vivent nos agriculteurs commande du courage politique, rétorque le rapporteur à La République En Marche. Le texte va maintenant partir au Sénat, à majorité de droite. La droite qui a largement approuvé ces dérogations au Palais Bourbon.
Rosalie Lafarge, merci. Les principales réactions à ce vote, la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves salue le courage et l'ambition du gouvernement. À l'inverse, Greenpeace a fustigé une régression écologique majeure. Quant à l'Association Nationale de l'Apiculture Française, elle y voit, je cite, une insulte à la protection du vivant. Dans un contexte sanitaire dégradé par le rebond de la pandémie, l'INSEE a publié aujourd'hui une note de conjoncture bien pessimiste. Conséquence des nouvelles restrictions mises en place, la reprise économique serait stoppée au quatrième trimestre. Sur l'ensemble de l'année 2020, le PIB reculerait de 9%, Catherine Pétillon.
Ce sont des projections marquées par l'incertitude. Si les mesures de restriction sanitaire durent ou se renforcent, elles pourraient provoquer une nouvelle baisse du PIB. À ce stade, l'INSEE estime qu'à la fin de l'année, le PIB devrait rester 5% en deçà de son niveau d'avant-crise. Principal enseignement de cette note, la baisse est très inégalement répartie. D'abord entre les secteurs. À partir du déconfinement, la plupart ont repris progressivement leur activité jusqu'à retrouver leur niveau antérieur. Désormais, l'essentiel de la baisse du PIB vient de la situation de 3 secteurs représentant 10% du PIB. L'hébergement-restauration, les transports de voyageurs et les activités culturelles. Ces secteurs durablement touchés sont toujours soumis à des restrictions et ils subissent encore en septembre une baisse d'activité de l'ordre de 20%. C'est là que devrait se concentrer au second semestre l'essentiel des pertes d'emplois. Inégalité entre les secteurs donc, mais aussi entre les territoires, lesquels subissent les effets de la crise de façon contrastée. Par exemple, sur le littoral ou dans les régions rurales peu densément peuplées, l'activité touristique a cet été retrouvée, voire dépassée, le niveau de 2019, alors que les métropoles ont subi une importante baisse des dépenses des touristes français, conjuguée à la faible présence d'étrangers. En somme, estime l'INSEE, l'épidémie a rebattu les cartes entre secteurs d'activité et territoires. Pour autant, il reste trop tôt pour savoir quels changements ou reconfigurations pourraient être pérennes.
Catherine Pétillon. Et les indicateurs sanitaires restent préoccupants ce soir. 1417 malades de la Covid sont en réanimation, 8 de plus qu'hier, sachant qu'il y a en France environ 5000 lits de réanimation. Dans les dernières 24 heures, 65 décès supplémentaires ont été enregistrés. Depuis le début de l'épidémie, le virus a tué 32 364 personnes dans notre pays. La France va restituer des biens culturels au Sénégal et au Bénin. Le projet de loi qui valide cette restitution doit être approuvé ce soir à l'Assemblée. Il s'agit de rendre au Bénin 26 pièces issues du trésor de Béhanzin, des pièces provenant du pillage du palais d'Abomey en 1892. Quant au Sénégal, le texte lui permettra de récupérer un sabre et son fourreau attribués à El Hadj Omar Tall, figure majeure de l'histoire militaire et religieuse ouest-africaine du 19e siècle. On en parle avec l'invité de ce journal, Julien Volper, historien de l'art, conservateur au Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren en Belgique. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je précise que vous êtes citoyen français, que vous vous exprimez en votre nom propre ce soir. Julien Volper, ce projet de loi sur la restitution de biens culturels est-il de nature à ouvrir un nouveau chapitre du lien culturel entre la France et l'Afrique, comme l'affirme la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot?
Si, par cette question d'ouverture vers les nouveaux rapports culturels avec l'Afrique, on peut imaginer quelque chose, une avancée par rapport à ces restitutions, je ne suis pas forcément convaincu. De fait, par le passé, si l'on parle de partage de collections, de prêts, de présentation d'objets des collections nationales françaises en Afrique, cela a déjà eu lieu, et d'ailleurs avec les deux pays concernés par ce projet de loi, à savoir donc le Sénégal et le Bénin. Puisque, par exemple, ce sabre dit de El Hadj Omar, j'insiste bien sur le dit, parce que sa relation avec cette personne historique qui est vraiment sujette à caution, a déjà été prêté à plusieurs reprises, donc ça prouve bien que les collections circulent. Quant aux objets de l'ancien royaume du Dahomey, conservés donc au musée du Quai Branly, un certain nombre d'entre eux ont été prêtés, je crois que c'était en 2007, quelque chose comme ça, pour une exposition au Bénin, à la fondation privée Zinsou. Donc, si on parle de questions de partage et surtout de possibilités de monstration d'objets des collections françaises dans des pays africains, la chose a déjà été faite. Moi, ce que je vois surtout avec un projet de loi qu'on présente comme un projet de loi d'exception, c'est d'abord de réfléchir à ce terme d'exception. Pour faire un projet de loi d'exception, il faut montrer en quoi le cas concerné est exceptionnel. Est-ce que c'est une exception par rapport au fait colonial? Mais dans ces cas-là, la colonisation ne concerne pas que des questions africaines. J'allais dire, la France a eu des colonies en d'autres parties du monde, notamment je pense à l'Asie, je pense à l'Indochine, qui concerne donc des pays actuels comme sont le Laos, le Cambodge ou le Vietnam. Est-ce que l'on parle de la question d'une exception qui est celle d'un butin de guerre? Là encore, qu'on me l'explique, le butin de guerre n'est pas une spécificité du fait colonial. C'est quelque chose qui se pratiquait, qui était légal, j'insiste là-dessus d'ailleurs, avant les conventions de l'Haye de 1899. C'est une pratique régulière qu'on ne réserve pas simplement, comme on l'entend souvent de dire, c'est une spécificité qu'on a réservée à l'Afrique. Non, ça se fait même entre États européens. Pour rappel, les troupes françaises, qu'elles soient révolutionnaires ou napoléoniennes, ayant agi en territoire italien ou belge actuel, ont ramené des œuvres. Donc ce n'est pas une exception non plus dans ce sens-là.
Si l'on se place du point de vue moral, on peut considérer que cette loi sur la restitution a ses arguments.
Ça, c'est la grande question du point de vue moral qui est souvent mis en avant. Mais la morale, et même au niveau du droit et de l'histoire, où se trouvent les notions de morale, comme je l'explique aussi à plusieurs reprises, si je reviens encore sur la question du droit, c'est que je me suis aussi intéressé à ces questions de pratiques similaires qui se faisait du côté des empires, par exemple, restons sur le Dahomey, sur le royaume du Dahomey. On pourrait dire, oui, mais on transpose aussi des lois européennes qui autorisent finalement quelque chose. Qu'en est-il du Dahomey? Au Dahomey, ce genre de pratique était tout à fait accepté et reconnu. Donc, moralement, on condamnerait de telles pratiques qui se déroulent à la même époque, simplement en France, mais on s'abstiendrait de condamner des pratiques similaires qui se déroulaient au Dahomey. Si l'on parle de morale, et ça c'est même par exemple, on parle de crime, on peut être complètement, viscéralement, opposé à la notion de prise de guerre ou des choses comme ça, mais on ne peut pas faire des crimes à la carte, même d'un point de vue moral. La morale ne peut pas faire une sélection dans son indignation.
Est-ce qu'il y a des exemples de biens culturels que la France pourrait elle aussi réclamer à des pays étrangers?
Oh, j'imagine, oui, il y en a quelques-uns. L'un des exemples que j'ai évoqué, qui est pour moi qui est assez parlant, qu'est-ce qui touche à un symbole français assez important, c'est celui qu'on considère comme étant le plus vieux drapeau tricolore français. Ce drapeau-là ne se trouve pas en France, il se trouve en Angleterre. Il se trouve en Angleterre parce qu'il a été saisi lors d'une bataille navale, lors de la bataille de Malte. Nous sommes en 1800 et il est conservé en Angleterre, où d'ailleurs il est de temps en temps exposé. Enfin, quelquefois il est exposé, et quand il est exposé, il est étalé sur le sol, et même les citoyens anglais peuvent passer le voir en marchant à ses côtés.
Et là, la France ne réclame pas ce fameux drapeau ?
Mais non, de la même manière, vous voyez ce qui se passe avec la Belgique. La Belgique a perdu aussi pas mal de pièces, et aussi avec le temps, j'allais dire, là, il y a plus de, à peu près, pour en discuter avec des collègues qui sont spécialistes de ces questions-là, il y a approximativement 200 statues et tableaux qui ont été pris au tournant donc du XVIIIe siècle et du XIXe siècle par les troupes françaises, et qui sont dans les différents musées nationaux français.
Les troupes napoléoniennes, en l'occurrence ?
Et révolutionnaire aussi, puisqu'on peut distinguer les deux.
Et la Belgique réclame ses œuvres à la France ?
Ah, la Belgique récemment, en fait, s'est intéressée à ça. C'est vrai que des fois la politique française suit moins la politique belge que la politique belge des fois ne suit la politique française. Il y a eu un texte qui a été voté par l'ensemble des partis belges, aussi bien néerlandophones que francophones, et qui concerne ces objets-là. Ça, je l'évoque dans une note pour l'Institut Thomas More. Ce qui est très intéressant, c'est que justement, il s'appuie sur l'approche du président Macron concernant les restitutions à l'Afrique. Et grosso modo, si je simplifie les choses, ça va être, puisque on se met en tête de réparer des butins de guerre, pourquoi ceux du Bénin et pourquoi pas ceux de la Belgique ?
Julien Volpert, historien de l'art, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Il faut rester prudent, mais les signes d'une libération prochaine de Sophie Petronin se multiplient. La dernière otage française dans le monde a été enlevée le 24 décembre 2016 au Mali, alors qu'elle dirigeait une organisation d'aide à l'enfance. Elle est aujourd'hui âgée de 75 ans. Sébastien Chado, le fils de Sophie Petronin, est arrivé aujourd'hui à Bamako. Les autorités maliennes viennent de libérer des dizaines de djihadistes. Claude Guibal, ces libérations s'inscriraient dans un échange dont pourrait bénéficier l'otage française.
En tout cas, on sait qu'il y avait des négociations en cours au Mali entre le pouvoir et les djihadistes. Et c'est vrai que ces derniers jours, les choses semblent s'être accélérées avec ces mouvements dans le centre du pays et dans le nord, avec ces avions qui ont atterri, avec beaucoup d'hommes à bord. Et puis la confirmation, enfin, de la libération de plus d'une centaine de prisonniers djihadistes et d'autres encore qui ont été libérés aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un chiffre très conséquent. Il s'agit en fait d'une négociation qui est donc menée par le pouvoir actuel au Mali, la junte militaire, pour faire libérer avant tout l'opposant Soumaïla Cissé, ce chef de l'opposition qui avait été kidnappé près de Tombouctou en pleine campagne électorale en mars dernier. Et c'est donc dans le cadre de cette négociation que pourrait intervenir une possible libération de Sophie Petronin. Sophie Petronin que l'on sait aux mains d'ACMI, Sophie Petronin qui est malade. La dernière preuve de vie date de mars dernier. Alors contrairement à Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président malien qui a été renversé en août, les militaires qui sont au pouvoir depuis le coup d'État n'ont jamais rejeté, eux, l'idée de négocier avec les groupes armés. Et la libération de Soumaïla Cissé fait partie de leur priorité, parce que ce geste, s'il aboutit, pourrait leur offrir la popularité et donc la légitimité dont il manque encore. Et en tout cas, il faut vraiment le noter, rien n'est confirmé pour l'instant officiellement. Toute l'après-midi, on a vraiment eu beaucoup d'informations contradictoires. La seule chose, c'est que Sébastien Petronin, qui, vous le savez, porte à bout de bras le combat pour sa mère depuis 3 ans, est effectivement arrivé à Bamako, mais il a quitté tout à l'heure l'aéroport sans faire de déclaration.
Claude Guibal, merci. N'ayez pas peur du Covid. Voilà le message délivré par Donald Trump hier à sa sortie de l'hôpital militaire Walter Reed. Le président américain est rentré hier soir à la Maison Blanche, mais il n'est pas encore tiré d'affaire, a précisé son médecin Sean Conley. Grégory Phillips, l'attitude désinvolte du président américain face au virus sidère la communauté médicale.
La scène hier soir a choqué. Peu après que l'hélicoptère Marine One a déposé Donald Trump sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le président monte les marches du perron et la première chose qu'il fait, c'est d'enlever son masque. Puis quelques minutes plus tard, il enregistre une courte vidéo dans laquelle il dit aux Américains de ne pas avoir peur du coronavirus et de ne pas se laisser dominer par cette maladie. Un professeur en santé publique de l'université Georgetown de Washington se dit désespéré. Normalement, le président doit être un modèle et ne faire circuler que des informations basées sur la science, qui plus est dans un pays qui vient de franchir la barre des 210 000 morts. Un autre médecin, associé à l'hôpital militaire Walter Reed, parle d'irresponsabilité stupéfiante. Enfin, Twitter a décidé de mettre un mot d'avertissement sur un message publié ce matin par Trump, dans lequel il affirmait que le coronavirus était moins mortel que la grippe. Facebook a carrément retiré ce message.
Et Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis. Eddie Van Halen, guitariste et fondateur du légendaire groupe de hard rock Van Halen, est mort aujourd'hui après une longue maladie. C'est ce qu'annonce son fils Wolf. Eddie Van Halen était âgé de 65 ans. Un mot du temps demain, pluvieux sur le sud-ouest. Ailleurs, un ciel variable avec des averses, notamment sur la moitié nord. Température minimale entre 6 et 15 degrés. Les maximales iront de 13 à 27 degrés du nord à la Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.